Les réserves des musées sont semblables aux greniers de nos vieilles maisons de famille. Elles recèlent des trésors cachés. Chaque musée possède un mystère particulier. Et le dévoiler, c'est comprendre son histoire, celle de sa collection et le fonctionnement de ses coulisses. Je suis François Genesini, bienvenue dans Chefs-d'œuvre en réserve, une série inédite conçue avec l'Acmé Productions. À l'emporte-pièce, mettre en exergue, ou encore sonnant et trébuchant, toutes ces expressions courantes ne font référence qu'à une seule et même chose. Vous l'avez ? La monnaie, bien sûr. Alors qu'en plein centre de la capitale, on fabrique des pièces, des décorations ou encore des médailles qui participent à écrire l'histoire de France, la monnaie de Paris s'est dotée d'un musée dont les collections portent sur des objets qui vont bien au-delà de nos frontières. Et comme nous allons le découvrir dans cet épisode, la fabrication de notre monnaie, plus complexe qu'il n'y paraît, mobilise tour à tour outillage séculaire, haute technologie, et savoir-faire d'artisans d'art d'une extrême sophistication. Aujourd'hui, pour percer tous les mystères de la monnaie, rendons-nous sans plus attendre à la Monnaie de Paris, puis à l'usine de Pessac en Gironde. Nous y sommes attendus par Béatrice Coularet, Dominique Antérion et Yves Sampo. Sésame, ouvre-toi. Bonjour, alors nous venons traverser la magnifique cour d'honneur de la Monnaie de Paris et Béatrice Coularet nous accueille. Béatrice Coularet est la responsable de la conservation de la Monnaie de Paris. Bonjour Béatrice.
Bonjour François, je suis ravie de vous accueillir.
Ben, c'était une grande chance.
À la Monnaie de Paris, oui. Et au sein de son musée également, oui. Dans cette institution régalienne dont l'histoire remonte à plus de 11 siècles. Et donc notre maison en fait a des missions de service public très importantes, et notamment la principale qui concerne chaque citoyen français, eh bien, c'est de pouvoir mettre à sa disposition les pièces de monnaie que nous frappons.
Une question par exemple tout de suite, combien de pièces de monnaie sont frappées chaque année?
Nous pouvons frapper en tout 1 milliard de pièces, ce qui est quand même très très important. À côté de cette première mission donc régalienne de service public très importante, nous avons aussi une activité de fabrication de monnaie de collection. Et puis ensuite, la troisième mission, elle est liée au patrimonial, aux collections, aux musées. Et donc à ce savoir, je dirais, qui se transmet de génération en génération par la transmission des gestes.
Alors en fait, il y a à la fois un lieu d'échange et de passage, hein, puisque même physiquement, les passants peuvent traverser en fait la Monnaie de Paris, ce qui est exceptionnel.
Absolument.
Et en même temps, si je comprends bien, puisqu'il y a des ateliers qui fabriquent des choses très précieuses, il y a un endroit qui est quand même encore secret, enfin une zone dans laquelle on ne peut pas rentrer. Alors quelle est cette zone?
Alors c'est ce qu'on appelle le clos industriel. Et dans ce clos industriel, eh bien nous avons des ateliers, et notamment l'atelier donc de gravure qui, avec toute l'équipe de graveurs et de graveuses, va ainsi pouvoir réaliser les dessins que l'on va retrouver, qui vont être gravés.
Une chose étonnante, je trouve, quand on arrive dans ce bâtiment, c'est sa magnificence. On aurait pu penser, en fait, que comme c'est des choses précieuses, de la monnaie, qu'il faut la garder secrète, qu'au contraire, on l'enferme dans un bâtiment anonyme. Et là, c'est exactement le contraire.
Absolument. C'est une commande royale. La magnificence, la munificence du roi, oui, doit se montrer dans tous les,
d'accord,
cas. Ça, c'est absolument indispensable. Jacques-Denis Antoine a réalisé des plans absolument incroyables pour doter, voilà, cette Monnaie de Paris d'une façade qui fait 110 mètres de long, d'un style néoclassique, donc très pur. Et à partir du mois de décembre 1775, eh bien, dans cet espace, on va frapper de la monnaie jusqu'à, allez, on va dire, la fin des années 1971-72, puisqu'après, on va pouvoir déménager donc le matériel de production industrielle vers la nouvelle usine de Pessac. Voilà, ce bâtiment, c'est vraiment une œuvre d'art en tant que telle. Et par sa fonctionnalité, eh bien, ça l'est encore davantage. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, on y est très confortablement installé. Donc, c'est un bonheur renouvelé tous les jours que de regarder cette façade extraordinaire.
J'ai vu sur le fronton marqué la confiance.
Absolument. Et sans confiance...
Il n'y a pas de valet.
Exactement.
Bon, très bien. Mais écoutez, merci de nous avoir campé le décor. On va vous retrouver tout à l'heure, je crois, dans votre bureau. Et maintenant, nous allons pouvoir aller vers le médaillé et découvrir d'autres trésors. Nous retrouvons Béatrice Coularet un peu plus tard. Mais en attendant, il me tarde de vous présenter Dominique Antérian, chargé des collections historiques du musée. Il m'a promis de nous dévoiler quelques-uns de ses trésors préférés et m'a donné rendez-vous dans un lieu mystérieux, un certain médaillé. Bonjour Dominique.
Bonjour à vous, ça va ?
Ça va très bien, merci de nous accueillir. Donc Dominique, vous allez nous conduire au cœur de la collection, dans le médaillé.
Le badge est là, et on va pouvoir rentrer.
Ah oui.
Allez-y.
Quel lieu inouï, Dominique.
Oui, c'est un bel endroit. Pour s'imaginer un petit peu, c'est comme une sorte d'immense dressing,
oui,
avec un tiroir par chemise.
Bon, en gros, oui, voilà. En gros.
Voilà. Sauf que, évidemment, là, ce ne sont pas les chemises de ma collection, mais ce sont en fait toutes les monnaies de la collection publique de la Monnaie de Paris qui sont en fait remisées ici. C'est beaucoup d'objets sur, finalement, une superficie qui n'est pas très grande.
Donc, d'une certaine façon, là, on est vraiment dans l'histoire de la monnaie, là.
Oui, dans l'histoire de la monnaie française, étrangère, hein, aussi, puisqu'en fait, on couvre un spectre très large, hein, au niveau du globe, et puis de toute époque, puisqu'on va de l'Antiquité jusqu'à nos jours.
Alors, vous voulez nous montrer maintenant cette fameuse donation,
les poids à Caen ? Oui, exactement. Alors, les poids à Caen, alors, pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que c'est justement peut-être l'objet qu'on attend pas forcément à trouver dans une collection numismatique, enfin, une collection d'un hôtel de la monnaie. On va imaginer que c'est que des rondelles
rondes, que des pièces
avec une valeur écrite dessus. Ici, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Alors, je vais vous montrer quelques-uns de ces poids. Je vais commencer d'abord par ce qu'on appelle les poids géométriques. Que voici. Ce sont des petits blocs de bronze, plus ou moins épais, plus ou moins grands. Certains font un demi centimètre de côté, certains 5-6, avec une épaisseur qui varie, hein, jusqu'au centimètre. Et en fait, ces poids, c'était leur fonction, servait à peser l'or. Alors nous sommes en Afrique de l'Ouest, on est dans le domaine à Caen, donc c'est une sphère ethnique de l'Afrique de l'Ouest, à cheval entre l'Est de la Côte d'Ivoire et le Ghana, et tous avaient en commun, parce que c'est un principe de paiement qui n'existe plus, la colonisation a fait que tout a été nivelé, mais avant, les Akans payaient en poudre d'or.
On est à quelle époque là ?
Donc là, on est à partir du 15e siècle, mais c'est surtout 18e et 19e, tous ces poids sont principalement du 19e siècle. Et pour payer en poudre, il faut savoir quelle quantité de poudre on donne à votre interlocuteur dans le cadre de la transaction.
Oui.
Et donc, tout le monde avait sur soi un jar, c'est-à-dire une poche de cuir, dans laquelle il y avait une balance, une boîte avec de la poudre d'or, et bien sûr, les poids. Ici, je vous montre des poids avec des personnages, des animaux, en forme d'éléphant, par exemple, ou en forme de gazelle, ou en forme d'oiseau.
Et ça avait une signification particulière.
Et voilà. Et en fait, vous avez tout à fait compris le truc. C'est qu'au-delà de la question du poids, ça signifie quelque chose.
Oui.
Et les djas, de génération en génération, s'enrichissaient des poids des aïeux, auxquels on rajoutait ses propres poids, en fonction de son tempérament, en fonction de son statut social aussi. Les poids royaux ne sont pas, évidemment, les poids de n'importe quel quidam.
Oui, le poids dans la transmission aussi.
Tout à fait.
Il y a un enjeu pour vous, en tant que justement conservateur des monnaies historiques, d'introduire en fait des monnaies étrangères.
Oui, alors en fait, je ne suis que l'héritier de ceux qui m'ont précédé. Et lorsqu'on regarde la figure d'un des grands directeurs de la monnaie qui était Alfred de Fauville à la fin du 19e siècle, hein, qui était pourtant quelqu'un du genre statisticien, donc plutôt quelqu'un finalement très basé sur les chiffres, les rapports, les moyennes, les écarts types, voilà, c'était son truc. Hein. Mais il ne comprenait pas finalement pourquoi on ne donnait qu'une vision biaisée de l'art de l'échange et de la pratique de l'échange. Or, s'il y a bien quelque chose alors qui est commun alors à toute la planète, c'est que tous nous échangeons.
Et d'une certaine façon, la collection aujourd'hui, elle rend compte de l'universalité des pratiques d'échange.
À la fois de l'universalité et en même temps de l'originalité de toutes les inventions qui ont pu se faire en termes d'objets d'échange. Hein. Entre des monnaies en forme de cloche, entre les poids à camp qui permettent de régler en poudre d'or, entre les coris, entre les coquillages, entre le sel, entre les tissus, en fait, c'est infini.
C'est presque un musée ethnographique, d'une certaine façon. Enfin, il y a une dimension ethnographique.
De toute manière, la monnaie est un objet à la fois social, ethnographique, mais aussi physique, économique, technologique, artistique. On est vraiment à la croisée, finalement, de toutes les disciplines.
Toutes les disciplines.
C'est ça qui rend, finalement, le métier assez beau. Je ne me verrais pas conservateur d'un musée de tableaux.
Alors, on a parlé ethnographie au travers des médailles, et vous voulez me parler maintenant d'histoire au travers d'une affiche particulière que vous vouliez me montrer.
Alors, en fait, ça va être un ensemble de quatre objets qui renvoient tous à la même monnaie et à un même événement. Alors, un événement qu'il y a de moins en moins de gens qui ont connu de leur vivant, c'est la Première Guerre mondiale. Alors là, je vais ouvrir un des médaillés qui est consacré à la première moitié du XXe siècle. La pièce est ici. C'est une pièce de 20 francs.
Oui.
Elle représente d'un côté, alors, la tête de la République française, donc la tête de Marianne avec son bonnet phrygien en assez gros plan, comme une tête de souverain, hein, presque, sauf que c'est le peuple souverain, finalement, qui est représenté. Hein, c'est pas le roi souverain, c'est le peuple souverain. Et au revers, et là, je pense que les Français, ça va leur dire quelque chose, un coq. Un coq, mais alors, voilà. Cette monnaie au coq, hein, elle est très connue parce que, d'abord, beaucoup cela sont transmises de famille en famille. Vous savez, la monnaie que les grands-parents donnent, la monnaie aux petits-enfants, la monnaie de la communion, la monnaie du baptême, etc., la monnaie de la majorité. Enfin bon, bref, la monnaie participe aussi des rites de passage
bien
aussi.
Sûr.
On pourrait en parler pendant des heures. Et cette pièce-là, elle a été frappée à partir de 1899. Elle va disparaître avec la Première Guerre mondiale.
Pourquoi ?
Eh bien, parce qu'elle est en or.
Oui.
Quand éclate la Première Guerre mondiale, la France va avoir besoin, à l'échelle du monde, d'asseoir son crédit pour pouvoir emprunter largement pour financer la guerre.
Donc elle va adosser sur la réserve or.
Alors, il faut adosser ce crédit sur la réserve or, mais cette réserve or, elle est majoritairement chez les gens.
Ah oui, très intéressant.
Et donc, il va falloir faire quelque chose que je vais vous montrer, mais juste avant, je vais vous montrer un autre objet. Alors, je vais quand même me permettre de remettre mon plateau.
Oui, remettez votre plateau.
À sa place. Oui. Alors là, je
vous
emmène une travée plus loin. Et donc là, l'objet que je vais vous montrer, alors, c'est la matrice originale
du
avec
coq.
Laquelle a été fabriqué le coq. Et vous avez l'autre matrice, évidemment, puisqu'on frappe toujours avers revers en même temps. C'est toujours le principe. Donc là, j'ai mon coin d'avers avec le coq, le coin de revers avec la tête de Marianne. Ça, c'est un objet, alors, pour le coup, qui est unique.
Unique.
Autant la monnaie, tous les Français l'ont, autant cet objet-là, il n'y a que nous qui le possédons. Donc là, j'ai eu ma monnaie faite sur cette matrice.
Les outils pour la fabriquer.
Voilà. Et il va falloir que les gens, au moment où la guerre éclate, sortent ces fameuses pièces au coq de leur épargne. Il va falloir les inciter pour cela. Et c'est le troisième objet que je veux vous montrer.
D'accord, on suit.
Alors on va un peu plus loin dans ce qu'on appelle la galerie d'art graphique qui est juste à côté du médaillé.
Oui. Donc ça, c'est une galerie qui n'est pas accessible au grand public.
Non plus. Et donc, bien sûr, moi, celle que je veux vous montrer, c'est la fameuse affiche d'Abel Fèvre. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une très grosse pièce au coq, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais là, le coq est beaucoup plus agressif. Son bec est en train de sortir quasiment du champ de la pièce.
Il sort
voilà.
de la pièce.
Et la pièce terrasse un soldat prussien.
Oui.
C'est la mise en abîme.
Oui, la mise en abîme, oui.
Et ça, la mise en abîme, c'est peut-être la chose la plus jouissive pour un conservateur de musée que de mettre en abîme les objets les uns par rapport aux autres. Tout se raconte en fait automatiquement.
Oui, d'accord, je vois.
Et cet aspect monétaire, c'est le troisième front de la Première Guerre mondiale.
Bon, écoutez, Dominique, merci beaucoup de nous avoir révélé quand même des secrets. Et là, nous allons maintenant nous diriger vers un bureau où une autre figure de graveur nous attend, je crois.
Voilà, assez original, vous le verrez. Quelqu'un qui n'a pas froid.
Tu n'as pas froid aux yeux ?
Aux yeux.
Aux yeux. Bon. Merci beaucoup, Dominique.
Merci à vous.
Ah, mais j'entendais pas dans l'escalier.
Béatrice !
Oh, François !
Ça va ?
Je suis ravie de vous accueillir
ah, bah
au service de la conservation. Venez, entrez.
Donc ça, c'est vos bureaux ?
Ce sont nos bureaux. « Et puis vous avez le chef-d'œuvre qui est là.
Bon, et c'est quand même extraordinaire de voir un tableau aussi grand dans un bureau. Mais alors, donc, qu'est-ce que c'est que ce tableau que vous avez voulu me montrer? Et puis quelle place il joue à la fois dans votre bureau, mais dans votre vie?
Alors c'est presque une histoire d'amour, ce tableau.
Ah, en fait. J'avais bien compris.
Hein. Et voilà, et oui, vous savez tout maintenant,
oui,
en fait.
Oui. On voit un homme en gilet rouge, avec un chapeau aux claques, un manteau de fourrure, et qui est en train de patiner.
Absolument.
C'est ça ?
Tout à fait.
Bon, alors, quel rôle joue-t-il dans votre existence ?
Donc, ce tableau a pour moi une valeur sentimentale très importante, parce qu'il représente un personnage dont j'apprécie beaucoup le travail. Il s'appelait Bertrand Andrieux, et c'est lui qui va avoir l'honneur, le privilège, de graver l'effigie donc de l'empereur dans l'acier pour mettre en œuvre l'histoire métallique de Napoléon Ier.
Est-ce que ça fait partie des missions de l'institution, finalement, de mettre en avant ces grandes figures qui ont contribué au développement de la monnaie ?
Alors, d'un point de vue patrimonial et historique, absolument.
Oui.
Puisque ce sont toutes ces personnalités qui font la richesse de cette histoire que nous pouvons raconter aujourd'hui. Mmh. Et ça peut paraître étonnant, effectivement, que voilà, un musée numismatique puisse avoir des collections de peintures.
Ben, oui.
Au contraire, la peinture, elle est là, effectivement, aussi, pour illustrer tous ces personnages. Car il faut savoir que les graveurs, et notamment Andrieux, hein, puisqu'on est devant lui, il gagnait extrêmement bien sa vie.
Ah. On voit, il a un manteau en fourrure, on voit
voilà.
Quand même, oui.
Les graveurs qu'il grave, voilà, des outillages monétaires ou des outillages de médailles, ils gagnaient très très bien leur vie. Parce que ce sont des objets, je dirais, spécifiques, pour un besoin spécifique. Et comparativement à un sculpteur et un peintre, mais c'est impressionnant,
oui.
Ça n'a rien à voir. Donc on va dire qu'il faisait partie de l'élite des artistes à l'époque. Même s'ils n'étaient pas tous dans la lumière, mais malgré tout, c'était rémunérateur.
Bon, donc là, on va passer d'une figure que vous aimez beaucoup à des figures réelles, puisqu'on a la chance de pénétrer dans l'atelier et de voir un maître graveur, Yves Sempeau. C'est une chance formidable, ça, que vous nous offrez.
Ah mais absolument, et donc j'en suis vraiment ravie.
Oui.
Vous allez passer un moment formidable.
Nous l'avons maintenant compris. La numismatique a ses figures et ses icônes historiques. Mais qu'en est-il aujourd'hui, à notre époque ? Pour le savoir, allons faire un tour du côté de l'atelier de la Monnaie de Paris pour tenter de croiser un maître graveur en chair et en os.
Et on pénètre dans l'atelier et nous attend Yves Sempeau, qui est le directeur de l'atelier. Bonjour Yves.
Bonjour François.
Comment allez-vous ?
Ravi de vous voir et de vous accueillir.
Écoutez, on est tellement heureux de pénétrer dans un endroit secret.
Peu de personnes rentrent dans cet atelier.
Oui. Alors, vous êtes découvert à votre établi.
Oui.
Alors, j'ai l'impression que l'objet symbolique, c'est vraiment l'établi avec ses outils.
La diversité de cet atelier, c'est à la fois la tradition et le modernisme. Donc, en fait, l'atelier est composé de une dizaine d'établis qui ont donc accueilli des graveurs et des graveurs et des graveurs donc très connus.
Hein. Alors, ce que je comprends aussi, c'est que dans le caractère sacré de cette transmission, l'établi, en fait, est transmis. C'est
l'établi est transmis et il n'est pas rare qu'un graveur partant en retraite cède son outillage également. Voilà. Donc ça permet effectivement aux jeunes arrivants d'avoir quelque chose, un fonds de commerce quelque part.
Comment se passe la collaboration entre les artistes, les designers, les créateurs et le graveur? Quel est le lien? Comment chacun nourrit l'autre?
On va l'accompagner dans son projet pour la réalisation. Il y a le prix de la Monnaie de Paris qui donne l'occasion à des créatifs de créer effectivement une médaille avec différentes possibilités de mettre en œuvre leurs idées. Nous, à l'atelier de gravure, à ce moment-là, on les accompagne pour réaliser en fait leur projet. Donc pour nous, c'est un challenge. Parce qu'à chaque fois, on va dire, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le métier, qui nous oriente sur une idée et il va falloir trouver la solution.
Et comment se fait l'échange des...
Alors,
la création en fait,
la création, c'est lui qui la réalise. Par contre, on lui dit, voilà comment on va procéder pour aboutir à nos fins. Donc ça sort du domaine industriel. Là, on est carrément dans l'artisanat. Pour chaque pièce, on a une démarche particulière et il va falloir sortir de notre zone de confort, où finalement la pièce est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement, pour imaginer la solution la plus adaptée à la réalisation de son projet.
Mais demain, nous allons partir vers un lieu plus industriel, pour voir dans l'usine de Pessac. Et c'est très émouvant, je trouve, de passer dans ce lieu, qui est un lieu très intime. On est dans le geste de la main le plus intime, et après, voilà. On va passer dans l'industrie. Ben,
c'est aussi garder le geste, hein, on garde le geste, on prolonge le geste sur quelque chose qui débouchera sur des pièces que tout le monde pourra posséder dans sa poche.
Écoutez, Yves, merci beaucoup.
J'étais ravi de vous accueillir.
On garde le geste, on garde le geste, certes, mais j'ai cru comprendre qu'une fois le motif conçu, les pièces courantes étaient fabriquées de manière industrielle, et ce, depuis des siècles. Béatrice et Dominique ont promis de tout m'expliquer, à la seule condition que je les rejoigne à l'autre bout de la France, à l'usine de Pessac, près de Bordeaux. Bon, Béatrice, on est content de vous retrouver. Alors, on est rentré dans le coffre-fort. Il s'agit vraiment d'un coffre-fort. Hein.
Ah, carrément, François. Quand on arrive donc dans cette usine où vous avez plusieurs blocs de bâtiments, eh bien, on arrive dans le Saint des Saints. Ou alors, il se passe vraiment quelque chose de très important puisqu'on va frapper la monnaie.
Pour rentrer, ça a été très difficile, à juste raison, avec toutes les mesures de sécurité. Moi, je m'attendais à la caverne d'Ali Baba avec des trésors comme ça devant moi. Pas du tout, en fait. Tout est vraiment contrôlé d'une manière extraordinaire.
Ah,
c'est probablement le bâtiment le mieux gardé de France.
Ah, mais absolument. Oui, et justement, ça, c'est très important. Mmh. Et tous nos collègues, on est tous, je dirais, très conscients de cette importance. Et c'est pour ça que quand on rentre à la Monnaie de Paris, déjà, on est tous très fiers parce que c'est vraiment absolument incroyable de travailler dans la plus ancienne entreprise de France et peut-être du monde également. Ce qui fait qu'on accepte tous ces processus. C'est absolument indispensable.
J'ai l'impression qu'on rentre en monnaie comme on rentre dans les ordres un petit peu. C'est-à-dire qu'avec une passion et une vocation
absolument.
Et un dévouement. C'est ça,
absolument.
Non
absolument.
J'entends ça en tout cas. Moi.
Ah mais carrément.
Il paraît que vous avez préparé une petite surprise.
Bon, exactement.
Mais comme on va déambuler, moi je suis plutôt un être un peu impatient, vous avez compris tout de suite. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner au moins, je ne sais pas, une ou deux indices sur cet objet, celui qui l'a créé, parce que je crois qu'il s'agit d'une médaille commémorative.
Allez, je vais être généreuse.
Ah oui, soyez généreuse.
Je vais vous donner un élément, un animal
oui.
massif, extraordinaire, l'éléphant.
D'accord.
Le deuxième indice, l'horloge molle.
L'horloge molle. Bon, bah écoutez, alors je vais cogiter, mais je vais cogiter Dieu, c'est pas facile. Allez, on s'en va vers la prochaine étape. Ça y est, dans les réserves. Alors, Dominique nous y attend. Comment ça va ?
Bien, bien. Un peu froid.
Un peu froid, c'est vrai. Oui, oui.
L'ambiance est oui, fraîche,
fraîche
dans cette réserve.
Alors, Dominique, ce qu'on voudrait maintenant comprendre, c'est comment on fabrique la monnaie. Et vous allez nous expliquer tout ça, les différentes formes de fabrication dans le temps. Mais je crois que vous voulez nous montrer un objet particulier dans les réserves qui, au fond, exprime comment, à un moment donné, on a réussi à fabriquer la monnaie d'une manière plus innovante, plus moderne.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, ici, dans cette réserve, on concentre vraiment tout ce qui est matériel de fabrication historique. Donc, en fait, tout ce qui sort des process industriels en cours. Et là, on se trouve devant une machine qui remonte à l'époque napoléonienne, puisqu'on est devant ce qu'on appelle un balancier d'Austerlitz. Alors, c'est le nom balancier que l'on donne de manière générale à ce type d'appareil qui permettait de frapper les monnaies, et ce, depuis le XVIe siècle. Alors qu'auparavant, la frappe se faisait au marteau. On va revenir avec les outillages là-dessus. Et d'Austerlitz, parce que cette machine et les six autres qui ont été faits de taille décroissante. Alors, on a une machine qui fait plus de 2 tonnes hein, et qui, en soi, on a déjà plus d'un mètre de hauteur. Elle est posée sur cette table extrêmement résistante puisqu'il faut supporter 2 tonnes de bronze. Hein, c'est du bronze.
Alors, c'est un morceau d'histoire, on veut bien dire.
Ouais.
Qu'est-ce qui a marqué là sur ce chef-d'œuvre joueur russe de loin là, qu'est-ce qui a marqué alors ?
Alors, en fait, il est indiqué que ce balancier a été fabriqué avec le bronze fondu à partir des canons pris aux Russes sur le champ de bataille d'Austerlitz.
D'accord.
C'est pour ça que ces balanciers portent le nom de balancier d'Austerlitz.
Ah, oui,
en fait, il y a toute une histoire qui qui nous renvoie en 1805, donc décembre 1805, donc c'est Austerlitz. Oui. Cette fameuse bataille face aux Russes et aux Autrichiens, bon, bah, Napoléon sort vainqueur, c'est tout de même un des sommets finalement de sa brillante carrière. Et quelques temps plus tard, on a Michel-Charles Gaudin, qui était le ministre des Finances de l'époque, qui vient taper à la porte de Napoléon et qui lui dit, bah, écoutez, j'aurais besoin d'une vingtaine de canons, parce que ces canons, c'est du bronze, et avec ce bronze, moi, je vais pouvoir fabriquer des balanciers pour pouvoir fabriquer vos monnaies. Et Napoléon dit, mais c'est beaucoup, 20 canons, voudriez-vous me faire la guerre? Alors Gaudin dit, bien sûr que non, 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 non. Mais en revanche, je voudrais qu'on les appelle des Austerlitz.
Ah oui.
Et alors là, Napoléon répond, puisque vous me prenez par la vanité, je vais vous offrir vos 20 canons.
Ah, c'est une belle histoire.
Voilà.
Vous le disiez, en fait, c'est un progrès. Donc ce qui serait intéressant pour nous, c'est de comprendre, en fait, quelles ont été les étapes dans la production de la monnaie. Alors, vous avez pas évoqué le marteau.
La monnaie, c'est un produit d'édition,
oui.
En fait. Donc, l'idée, c'est d'avoir un master pour ensuite faire les multiples. Et plus on a de multiples, plus on peut faire de monnaie. Donc, c'est une histoire complexe. Donc, en fait, on a frappé au marteau ces coins, le flanc entre les deux coins, on l'a frappé au marteau jusqu'au XVIe siècle. Le balancier est arrivé, bon, c'était un peu compliqué, parce que les monnayeurs, ils n'étaient pas tout à fait d'accord, parce qu'ils voyaient une part de leur boulot un peu leur échapper, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette machine qui arrive? Comme quoi l'histoire a un peu tendance à se répéter. C'est Louis XIV qui validera le fait que désormais, on frappe au balancier. Toutes les monnaies sont bien frappées au balancier, parce qu'il n'y a pas de problème que le coin n'est pas droit, c'est pas frappé correctement, pas suffisamment fort, c'est un peu de guingois, c'est pas assez rond. Le balancier, il règle en fait tous ces problèmes-là. Désormais, on a une belle monnaie, bien standard, bien ronde. Puis au 19e siècle, c'est la troisième étape, c'est l'invention de la presse. Donc là, les presses que l'on a ici, elles frappent 800 monnaies par minute. C'est une petite œuvre d'art que tout le monde va avoir dans sa poche.
Et cette pièce, par exemple, même à l'époque, était infalsifiable, on ne pouvait pas la reproduire?
Alors, dans l'absolu, non. En effet, c'était censé ne pas être falsifiable. Justement, la technique au balancier avait été créée au XVIe siècle pour ça. Mais c'est le propre des faussaires. Il faut toujours trouver le moyen de contourner. En fait, j'aime bien votre question parce que elle nous ramène finalement aux fondamentaux. Tous ces progrès que je vous évoque, marteau, balancier, presse, ils sont rendus nécessaires parce que les faux monnayeurs, eux, finalement, à un moment, nous rattrapent dans la course. Et il faut, nous, qu'on reprenne, en quelque sorte, la main sur ces opérations. Et ainsi de suite.
Je pourrais dire, pour conclure cet entretien, qui a été passionnant, c'est que, nous, de toute façon, nous nous sommes enrichis avec vous.
Et la monnaie enrichit les gens.
La monnaie enrichit les gens. C'est ça, exactement. Et merci vraiment de cet échange et d'avoir partagé avec vous tout ce qui vous va au cœur, vous passionne. Béatrice ?
Oui, François ?
Ah, vous m'attendez, c'est bien, ça.
Ah, ben bien sûr. Ah. Bienvenue.
Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent.
Ah, carrément.
Et donc, vous allez me montrer, en fait, cette surprise, vous m'avez dévoilée.
Ah oui, mais vous savez, c'est plus complexe que ça. J'ai un troisième indice.
Alors ?
Chocolat. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer, le mot chocolat ?
On reprend. Montre. Non, alors, horloge.
Horloge.
Éléphant.
Éléphant. Chocolat.
Peintre.
Oui.
Je suis fou du chocolat Lanvin.
Absolument.
Dali, c'est ça ?
Dali, Salvador Dali. Bravo,
alors,
bravo François.
Alors montrez-moi.
Alors, bon, je vous emmène.
D'accord.
Alors voilà. Nous sommes arrivés devant le bon médaillé.
Bon, alors il est où, Salvador ?
Ah, alors attention.
Attention. Chef-d'œuvre.
Chef-d'œuvre.
Ah, très beau. Alors, c'est en argent.
Alors déjà, Salvador Dali, peu de gens peuvent imaginer qu'il a pu collaborer avec la monnaie de Paris.
Oui. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans
cette affaire? Justement, le directeur de la monnaie de Paris de l'époque, qui s'appelait Pierre Dehaye, va avoir l'idée, en 1963, de créer ce que l'on appelle le Club français de la médaille. Et le Club français de la médaille était donc adossé à la monnaie de Paris et a été créé spécialement pour permettre à des amateurs, à des gens qui collectionnaient, qui souhaitaient avoir une petite œuvre d'art portative. Et l'idée, c'était de faire appel à des artistes venant d'univers créatifs très très différents, de pouvoir créer, donc par le biais d'un modèle, un dessin. Et bien ici, on est en 1966, et donc on retrouve au dos
au revers de la pièce, oui, la signature de Salvador Dali, oui, l'année de création de son modèle, et puis une dédicace d'une certaine manière, et puis ce personnage qui a l'air de...
Une femme qui monte la licorne,
voilà, une cavalière
absolument, avec une trompette, c'est ça ?
Voilà, un peu comme une renommée.
Une renommée, d'accord.
Voilà, mais donc là, c'est le titre, en fait, Unicorne, oui, parce qu'effectivement, comme la licorne, dionysiaque. Ce tirage étant limité à 150 exemplaires d'argent.
Ah oui, 150 exemplaires,
ouais,
seulement.
Exactement. Oui. Donc là, justement, le fait que ce soit avec un faible tirage, ça a aiguisé, si vous voulez, l'appétit bien des
sûr,
collectionneurs.
Bien sûr. Mais par exemple, ça, une pièce comme ça, est-ce que ça a une valeur marchande comme une cote ?
Absolument.
Ah oui.
Alors déjà, vous avez la cote de l'artiste.
Oui.
Le fait que ce soit tiré en 150 exemplaires.
Oui.
Le fait que ce soit en argent. Donc effectivement, pour un collectionneur,
oui,
trouver ce genre d'objet en vente publique aux enchères,
voilà,
ou chez un marchand numismate,
oui,
etc., ou chez un antiquaire,
oui,
eh bien, ça a vraiment beaucoup de valeur. Donc pour nous, c'est vraiment une œuvre majeure.
D'accord.
Et on voit se déployer ainsi toute l'inventivité surréaliste de Salvador Dali.
En nous dévoilant cette œuvre, on voit vraiment que c'est un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de Salvador Dali. Mais je suis étonné qu'il soit dans une petite enveloppe, dans une armoire à Pessac. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en majesté dans vos collections ? C'est quand même étonnant.
Bah écoutez, je vais vous dévoiler un petit secret.
Oui.
Cette œuvre,
encore un,
va être présentée dans la prochaine exposition qui va être organisée par la Monnaie de Paris, qui s'appelle L'argent dans l'art, du 30 mars au 24 septembre 2023. Le public pourra découvrir grandeur nature,
oui,
ce qu'est cette belle médaille de Salvador Dali.
Autour d'un thème qui est quand même un thème parlant, magnifique.
Absolument, absolument,
ouais,
qui est un thème contemporain,
oui,
qui a été investi par les artistes depuis... Allez, l'Antiquité.
Vous avez la possibilité, vous, de vous créer une médaille. Une médaille commémorative. Là, qu'est-ce que vous prendriez comme motif pour vous célébrer vous-même ? Allez, n'ayons pas peur des mots.
Le soleil.
Le soleil. Ah,
ah carrément.
Ah oui.
Et ça, en hommage à Louis XIV, peut-être.
D'accord.
Qui fut un grand créateur de médailles.
Oui.
Et son histoire métallique est une des plus célèbres. Et donc, c'est vrai que ce rayonnement de l'art de la médaille, par ce symbole solaire.
Oui. Vous
voyez, ça, pour moi, c'est peut-être très important.
Bon, ben, Béatrice, c'est quand même merveilleux de terminer cet épisode avec le soleil resplendissant, avec un petit peu de surréalisme de Salvador Dali, et puis votre passion à vous.
Je suis ravie.
On vous remercie beaucoup. On a passé un moment merveilleux. Je suis sûr que les auditeurs ont passé un moment merveilleux avec nous, parce que c'est un monde en soi qui s'est ouvert à nous. Et je vous avoue que moi, je n'avais pas du tout idée de ce que ça pouvait être. Donc, merci beaucoup de nous l'avoir fait découvrir.
Merci.
À bientôt,
à bientôt,
merci.
Merci.
Vous venez d'écouter le podcast Chefs-d'œuvre en réserve. Pour découvrir les réserves d'autres institutions, retrouvez l'ensemble des épisodes de la série sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, étonnements ou envies. Et en attendant, pour ne rater aucune sortie, abonnez-vous. Chefs-d'œuvre en réserve est une création originale, l'Acmé Productions, développée en collaboration avec la Monnaie de Paris. D'après une idée originale de François Genesini. Rédaction en chef et direction de production, Victoria Le Bolloc-Salama. Réalisation son, Nicolas Mollet. Prise de son, Yanis Docourteau. Mixage, Ben Auriel. À bientôt!